Bienvenue à l'écoute des Laboratoires de la Transition, le podcast d'AEF Info et du collectif Labo 1.5 qui va à la rencontre des pionniers de la réduction des gaz à effet de serre dans les laboratoires de recherche. Pour ce second épisode, nous allons réfléchir aux moyens de réduire l'empreinte carbone du numérique. Un écran? Deux écrans? Combien de temps conserver son ordinateur? Comment organiser l'usage des serveurs qui tournent jour et nuit, parfois sans que plus personne ne sache quelles données ils contiennent? L'usage du numérique concerne tous les chercheurs, sans exception, bien sûr sous des formes diverses. Pour mieux situer ces questions, allons d'abord à la rencontre du laboratoire Maillage à Jouy en Josas. Sous la tutelle d'INRAE et de l'Université Paris-Saclay, ce laboratoire regroupe des mathématiciens, des informaticiens, des bioinformaticiens et des biologistes autour des questions de biologie et d'agroécologie. Il a été un des premiers à rejoindre le réseau expérimental des laboratoires en transition du collectif Labo 1.5 et il a adopté un plan d'action dont un des axes concerne l'empreinte du numérique. À l'origine de cette initiative, la statisticienne Sophie Schbatt, qui a dirigé le laboratoire jusqu'en juillet 2022. Elle revient sur les grandes lignes de l'empreinte carbone de Maillage.
Ça a été une grande surprise de voir que ce n'est pas les déplacements en avion qui arrivent en premier. C'est le déplacement domicile-travail. Ensuite, le chauffage au gaz et seulement viennent après, coude à coude, l'équipement numérique et les déplacements professionnels. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu cette vision, cette empreinte, on n'aurait pas forcément axé nos actions de la même façon.
Sur la base de ce bilan, des consultations ont été menées et les membres du laboratoire ont été invités à se prononcer sur 28 initiatives destinées à réduire leur empreinte environnementale professionnelle, comme l'explique Sophie Schbatt.
On a eu besoin de sonder les collègues sur ce qu'ils étaient prêts à faire ou pas. Et donc, on a eu l'idée de leur proposer 28 actions. D'actions vraiment qui n'étaient pas engageantes à des actions assez engageantes. Et c'est au vu de ces actions et de ces réponses qu'on a construit les scénarios de façon emboîtée, en remplissant, on va dire, la barque du plan d'action. Et le vote final a consisté à finalement se positionner sur un des scénarios. Et on a voté celui qui était l'avant-dernier, le plus ambitieux, avec 40% de réduction à échéance de 2030.
Parmi ces initiatives, un certain nombre concernent donc l'empreinte numérique du laboratoire. Avec, en tête des préoccupations, limiter le matériel et en augmenter la durée de vie.
Pour l'empreinte du numérique, le poids le plus important, c'est la fabrication des équipements. Il fallait mettre en place des actions qui nous font, on va dire, acheter le moins possible de nouveaux équipements neufs. Alors ça, on peut s'aider des garanties, en fait, des durées de garantie qui, c'est vrai, ces dernières années sont passées de 3, puis à 5 ans, puis à 7 ans. Nous, on est à labo de Matinfo, donc c'est important pour nous d'acheter du bon matériel. Donc on préfère acheter un peu plus cher ou du matériel un peu plus performant. Et finalement, ça nous aide à le garder plus longtemps. C'est-à-dire on prévoit dès le départ que l'ordinateur a suffisamment de mémoire, suffisamment de stockage pour éviter de le changer tous les 4 matins. Et le fait aussi que la majorité du labo soit sous Linux. On va dire qu'il y a peut-être un petit peu moins d'obsolescence programmée au niveau logiciel. Et ensuite, on était peut-être, on va dire, des enfants gâtés il y a quelques années à avoir plusieurs ordinateurs par personne. On avait un ordinateur fixe, un ordinateur portable. Certains agents ont deux écrans sur leur bureau, etc. On a essayé de réduire le nombre d'équipements par agent. Là, on tend vers un seul ordinateur portable et, si possible, un seul écran. Aussi, en termes de serveurs, on peut aussi viser de réduire le nombre de serveurs physiques en utilisant de la virtualisation. On avait, nous, une salle machine dans notre labo. Nos serveurs étaient en interne. Et on a fermé notre salle machine aussi sous l'impulsion de notre tutelle, qui nous incitait à déposer nos serveurs dans des data centers institutionnels.
Comme nous avions eu l'occasion de le constater lors du précédent épisode du podcast, se lancer dans ce genre d'expérimentation peut susciter quelques craintes en interne. Celle qui était alors directrice de l'unité raconte.
La première réaction, ça a quand même été d'avoir un peu de crainte, on va dire. Puisque si forcément la directrice de labo fait le bilan, c'est que forcément par derrière, elle va vouloir nous imposer des choses et des contraintes. Et finalement, on a eu du soutien de l'ensemble du laboratoire pour essayer d'aller un peu plus loin, de réduire notre empreinte. Un des points importants pour s'engager dans cette expérimentation, c'était le fait que si jamais il y avait le moindre problème, on pouvait en sortir.
Dans le premier épisode consacré aux déplacements en avion, le chercheur Antoine Hardy a mis en regard ces déplacements et la valeur sociale d'une activité de recherche. Ce concept est aussi valable pour l'empreinte carbone du numérique. L'expérience de Marie-Alice Foujols permet de le toucher du doigt. Longtemps responsable technique du pôle de modélisation du climat de l'Institut Pierre et Simon Laplace, cet ingénieur de recherche explique l'importance des centres de calcul pour simuler le climat à venir et ses impacts.
Je suis informaticienne de formation, ingénieure de recherche au CNRS et j'ai fait une grande partie de ma carrière sur le développement du modèle climat de l'IPSL et on en est à la 6e génération et on prépare la 7e et j'ai passé la main à des collègues plus jeunes. La 6e génération a été utilisée dans le 6e rapport du GIEC et c'est le seul outil qui nous permet de nous projeter dans le futur. Donc c'est un gigantesque programme informatique dans lequel on a mis des équations de la physique. Donc ça s'appuie sur des théories très, très solides et très précieuses. Et pour simuler le climat, on a découpé l'ensemble de la planète dans des petites mailles. Et du coup, ça représente un grand nombre de points sur lesquels on a besoin de calculer des variables très différentes. Et cela représente des quantités de mémoire énormes qu'on utilise des dizaines de milliers de cœurs de calcul et qu'on monopolise pendant des jours.
Tout à l'importance de ses recherches, Marie-Alice Foujols n'a pas toujours regardé l'empreinte environnementale de ses activités. Elle explique ce qui l'a conduite à s'y intéresser et à rejoindre le collectif Labo 1.5.
Moi, j'étais concentrée sur faire un meilleur modèle, le faire tourner plus vite, qu'il ne soit pas plein d'erreurs, hein, plein de bugs. Et c'était un travail avec beaucoup de monde, donc ça m'occupait à 150%. La grande claque, ça a été le rapport 1.5 du GIEC, qui est sorti en octobre 2018. Et moi, qui avais l'habitude de brasser des chiffres de changement climatique entre l'interglaciaire et le glaciaire, ou le futur, avec des différences de température de plus 7 degrés en moyenne, des choses comme ça, sans aucun sentiment. La lecture de ce rapport qui décrit la différence entre un monde à 2 degrés et ce qu'on gagne dans un monde à 1,5 degré m'a ouvert les yeux. J'ai orienté mes activités là-dessus. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a estimé l'empreinte carbone des simulations qu'on avait faites pendant les 3 années précédentes qui ont été utilisées dans le 6e rapport du GIEC. Donc là, c'était déjà un chiffre important. De mémoire, sur 3 ans, c'était 400 tonnes. Et depuis, j'ai rejoint Labo 1.5 et c'est vrai que je garde un œil sur le côté numérique, grand calcul et une activité pratique. On va essayer de rajouter l'empreinte des calculs intensifs dans l'outil GES 1.5 pour que les laboratoires puissent ajouter ces informations-là et comparer avec les autres activités.
L'outil GES 1.5 qui est ici évoqué a été mis au point sous la houlette du collectif Labo 1.5 pour mesurer l'empreinte carbone des laboratoires de recherche. Il évolue pour prendre en compte les activités de calcul. Marie-Alice Foujols livre son analyse sur les moyens de réduire cette empreinte.
Alors il y a une partie qui est relativement facile, qui est d'adopter des bonnes pratiques lorsqu'on lance des simulations lourdes. Adopter des bonnes pratiques, ça veut dire prendre le temps de réfléchir longuement sur le protocole de simulation, de ne pas faire de simulation inutile, de sans doute travailler à plusieurs équipes et essayer de voir si une simulation peut aider à répondre à plusieurs questions scientifiques. On a aussi toute une hiérarchie de modèles. On a des modèles très très simples qui peuvent tourner sur votre portable. Par exemple, des modèles sur une seule colonne du fond de l'océan jusqu'en haut de l'atmosphère qui permettent de travailler sur les processus, d'utiliser dans cette hiérarchie de modèles le modèle le plus approprié pour les questions, tronçonner les questions avec des étapes qui ne nécessitent pas forcément les plus gros calculs. Donc ça, c'est des bonnes pratiques, hein, réfléchir à ce qu'on fait, en parler, rechercher si cette simulation-là n'a pas déjà été réalisée par d'autres, enfin ce genre de choses. Les calculateurs les plus récents utilisent peu de ressources énergétiques, donc faire en sorte que nos modèles tournent là-dessus, c'est un gros travail. Parce que c'est une programmation différente de ce qu'on a fait jusque-là, pour faire simple. Et ça nécessite des expertises très pointues en termes de programmation, de logique, de numérique. Donc on a besoin de travailler avec ce type de personnes expertes. Le souci, c'est qu'elles sont très sollicitées par d'autres acteurs de la société et qui, sans doute, payent beaucoup plus cher que ce qu'on peut faire.
Gardons en tête les expériences de ces deux chercheuses déterminées à réduire l'empreinte carbone du numérique et allons à la rencontre d'Emmanuelle Frenoux, enseignante-chercheuse en informatique au Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique de l'Université Paris-Saclay. Après avoir commencé sa carrière comme spécialiste du traitement d'images médicales puis des réseaux de neurones profonds, elle s'est réorientée pour étudier l'impact environnemental de la recherche et a ainsi rejoint le groupement de chercheurs et d'ingénieurs Eco-Info qui œuvre à la réduction des impacts négatifs du numérique. Elle explique pourquoi l'équipement est un enjeu central, en écho aux efforts du laboratoire Maillage dans la matière.
La majeure partie de l'empreinte carbone d'un matériel numérique est consacrée à sa fabrication. Et ça, c'est vrai, quel que soit le matériel. L'empreinte environnementale, c'est plus large, puisque ça va regarder d'autres indicateurs. Et dans le cas d'un matériel numérique, on va avoir une pollution liée à l'extraction des matières premières. Alors, il y a une dépense d'énergie qui est conséquente dans ces phases-là, mais on a aussi une pollution chimique avec l'extraction. Donc, on utilise des acides, par exemple, et puis... Les matières premières, c'est des minerais qui sont souvent couplés avec d'autres minerais polluants. On a une nécessité d'utiliser beaucoup d'eau, de grandes quantités d'eau pour rincer les terres et les métaux qu'on va utiliser. Donc là encore, on a une pollution qui va être différente de l'émission de gaz à effet de serre et qui va toucher à peu près la totalité de l'environnement, puisqu'on aura des émissions de gaz polluants. On aura des émissions d'acides qui vont être relâchées soit dans les eaux de rinçage, soit directement après usage. Et puis on a une immobilisation de ce qu'on appelle des terres arables, c'est-à-dire des terres qui auraient pu être utilisées pour cultiver et donc pour nourrir.
La durée de vie du matériel informatique constitue donc un enjeu central. À plus forte raison quand on sait que son recyclage est extrêmement polluant, quand il n'est pas tout bonnement impossible. Aussi difficile, dit-on, que de retirer le sel du pain après cuisson. Alors le levier principal revient à s'appuyer sur des garanties les plus longues possibles.
Une fois qu'on sait qu'effectivement le plus gros de l'empreinte d'un matériel, c'est sa fabrication, dans l'idéal, si on veut réduire son empreinte environnementale en ce qui concerne le numérique, il va falloir conserver le matériel le plus longtemps possible. Et pour faire ça, il y a deux pistes possibles. La plus simple, c'est d'avoir une durée de garantie très longue, donc c'est 7 ou 8 ans qu'il faut envisager. Ce qui fait que ce matériel-là, on est certain qu'il sera réparable sur une durée longue, puisque le fabricant vous garantit qu'il va le réparer sur 7 à 8 ans. Et puis, par ailleurs, du coup, on va le garder ce temps-là, ce qui fait qu'on va renouveler, par exemple, dans certains laboratoires, on va renouveler le matériel dès l'instant qu'il n'est plus sous garantie. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas forcément les forces humaines pour faire de la réparation sur le matériel. Donc, dès l'instant qu'on n'a personne pour être en mesure de réparer, on ne prendra pas le risque d'avoir un matériel qui tombe en panne et un chercheur ou une chercheuse qui soit plus en mesure de travailler. Le bon réflexe, ça va être d'avoir moins de matériel, ralentir notre consommation, et d'avoir un matériel qu'on peut conserver plus longtemps. La deuxième astuce, c'est d'avoir un matériel qui est facile à réparer.
La bonne nouvelle, c'est que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent peser collectivement en se fournissant via un groupement d'achat de matériel informatique, Matinfo, dont ils peuvent fixer le cahier des charges. Pour l'instant, Matinfo ne répertorie pas le matériel de seconde main, mais il a permis des avancées.
Dans l'enseignement supérieur et la recherche, on a un marché spécifique pour le numérique qui s'appelle Matinfo, et il se trouve que ce marché-là, représente un des plus gros clients en Europe pour les fabricants de matériel numérique. Donc, de fait, on a un assez fort poids avec ce marché-là. Donc, pouvoir mettre dans les demandes du marché Matinfo un certain nombre de critères, une réparabilité longue, effectivement, des garanties longues, ça va influencer le comportement des fabricants. De fait, ils le font pour le SR, ils sont capables de le faire pour les particuliers.
Emmanuelle Frenoux attire aussi l'attention sur les émissions de carbone des centres où sont stockées les données de la recherche.
On a un cas particulier sur les machines, sur les serveurs de type calcul ou données. Comme ils ont une durée de vie plutôt longue, en termes de gaz à effet de serre, pour le coup, c'est l'usage qui va être prépondérant. Mais donc, on se retrouve effectivement avec des centres de données qui souvent sont un petit peu surdimensionnés pour une raison bête, c'est qu'on ne peut pas se permettre de dire au chercheur ou à la chercheuse « Ben non, là, il n'y a plus de place, on ne peut pas stocker vos données ». Donc, il va falloir avoir systématiquement un certain nombre de machines à disposition pour pouvoir stocker. Et le fait qu'on ait ces accès en permanence, ça va faire aussi qu'on a tendance à stocker sans forcément réfléchir au type de données. Dans un centre de données, on sait qu'il y a un certain nombre de machines qui sont en fonctionnement sans qu'on sache bien ce qu'il y a comme données dessus, s'il y a vraiment des données et si elles sont encore utilisées par quelqu'un ou nécessaires à quelqu'un. Au CEA, par exemple, certains collègues en astronomie se posaient la question de stocker des données sur des machines qu'ils éteindraient et n'allumeraient qu'à la demande pour un accès particulier.
On le voit dans cet épisode. Pour réduire leur empreinte, les laboratoires ont besoin de compétences spécifiques. Il est plus facile de faire durer du matériel informatique dans un établissement où des personnels sont là pour le réparer en cas de panne. Et les centres de calcul ont besoin des chercheurs les plus compétents pour optimiser les outils, en intelligence artificielle notamment, un domaine où les spécialistes s'achètent à prix d'or. Cet épisode confirme aussi que prendre en compte l'empreinte environnementale de la recherche oblige à poser des questions de fond sur ses finalités et sur son organisation. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes des Laboratoires de la Transition. Merci à Marion Avet et Tamara Benari de Labo 1.5 de m'avoir aidé à préparer cet épisode et à Morgane Prudhomme et le Studio Module pour le mixage. Rendez-vous le mois prochain pour deux nouveaux épisodes consacrés aux achats et aux bâtiments. À bientôt !